Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 13 novembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. La France annonce que le djihadiste Baga Moussa, ancien colonel déserteur, a été tué dans un raid de la force Barkhane au Mali. La région dissidente du Tigré affiche sa détermination à résister à l'opération éthiopienne. Les États-Unis appellent à la cessation immédiate des hostilités. Près de 100 migrants sont morts dans deux naufrages en 24 heures au large des côtes libyennes. Covid-19, plus de 67 000 personnes ont été hospitalisées en une journée aux États-Unis. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. On commence par l'actualité aux États-Unis. Présidentielle américaine, Joe Biden, qui a rassemblé 5 millions de suffrages de plus que le président sortant, a consolidé sa victoire en remportant l'Arizona, que les démocrates n'avaient pas gagné depuis 1996, selon une projection de la Voix de l'Amérique. Il rassemble ainsi 290 grands électeurs contre 217 pour M. Trump, alors que 270 sont nécessaires pour remporter la Maison-Blanche. Le président Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite près d'une semaine après que les médias américains, sur la foi de projection, ont annoncé la victoire du démocrate Joe Biden. La Maison-Blanche se prépare un second mandat de Donald Trump, a affirmé un conseiller économique du président sortant. Nous continuons à travailler en considérant que Trump va avoir un second mandat, a déclaré Peter Navarro sur la chaîne Fox Business. Par ailleurs, des autorités électorales locales et nationales, dont l'agence de cybersécurité, affirment n'avoir aucune preuve de piratage lors de la présidentielle et ont rejeté les assertions de fraude dans un communiqué commun.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, la force française Barkhane a multiplié ses raids dans les régions de Kidal et Ménaka, occasionnant la mort de l'ex-colonel déserteur Baag Moussa, djihadiste lié à Al-Qaïda. Sa mort a été annoncée par la ministre française de la Défense, Florence Parly, disant que les opérations antiterroristes dans le Sahel vont se poursuivre. Le point avec Kassim Traoré.
En début de semaine, des informations faisaient état de la mort de l'ex-colonel déserteur de l'armée malienne, Baag Moussa Diba Moussa, un des piliers du groupe terroriste JIM, Jamal Nostral al-Muslim wal-Muslimun, Diad Agali, ainsi que son fils, Aïda Deret. Cette frappe aérienne de la force Barkhane s'est déroulée le 10 novembre aux environs de 19h et à une dizaine de kilomètres à l'est de Tidamakat, à environ 150 km de Ménaka. Le véhicule était complètement détruit et 6 occupants du dit véhicule ont tous été tués. Nos sources nous disent qu'il s'agit du colonel Bamoussa Diara, son fils, ainsi que 4 autres compagnons. Cette mort a été confirmée ce matin par la ministre française de la Défense, qui d'ailleurs encourage la force Barkhane à continuer ses opérations dans le Sahel. Il est à signaler que Baag Moussa Diba Moussa est soupçonné d'être derrière plusieurs attaques meurtrières contre les casernes de l'armée malienne à Nampala, Djabali, Nara et Bukuwere. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'armée s'est déployée en force dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le secteur de Tengrela, près de la frontière malienne, en raison de craintes d'une infiltration djihadiste. De nombreux militaires lourdement armés se sont déployés dans et autour de la ville. Les autorités maliennes ont informé que des djihadistes se seraient infiltrés en Côte d'Ivoire et seraient prêts à agir, indique une source sécuritaire à Tengrela. Le préfet Cyril Ambroise Diomandé a confirmé la raison du déploiement. L'ONU a réclamé une enquête sur des possibles crimes de guerre dans la région éthiopienne dissidente du Tigré, où l'armée mène une opération contre les forces locales qui sont en passe d'être défaites, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Le point avec John Lyndon.
Jeudi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a promis une victoire d'ici relativement peu de temps face aux forces du Front de libération des peuples du Tigré qui dirige cette région du Nord. Cette affirmation est un rêve éveillé, a répondu le président du Tigré, Debretsion Gebremichael. Nous sommes des gens fiers qui pouvons nous défendre. Il a également fermement démenti l'implication de ses troupes dans un massacre des civils, comme l'affirme Amnesty International. S'il est confirmé qu'ils ont été délibérément perpétrés par une partie, ces meurtres des civils équivaudraient bien sûr à des crimes de guerre, a indiqué Michel Bachelet, haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Elle a réitéré son appel aux deux parties pour qu'elles entament des pourparlers en vue d'une cessation immédiate des hostilités. Personne ne sait vraiment ce qui se passe sur le terrain, car le gouvernement a coupé l'accès à Internet.
Les États-Unis ont appelé à des mesures immédiates en vue d'une désescalade dans la région du Tigré. Nous condamnons le massacre de civils à Maïkadra, a déclaré le secrétaire d'État américain adjoint chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, ajoutant qu'il est essentiel que la paix soit rétablie et que les civils soient protégés. Nouveau drame de l'immigration, 100 personnes sont mortes en une journée, 20 ont péri au large des côtes libyennes après un autre naufrage ayant fait 74 morts. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les équipes de Médecins sans frontières ont assisté 3 femmes seules survivantes du naufrage où 20 personnes se sont noyées à Sorman, a rapporté l'ONG. Peu avant, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé au moins 74 morts dans un autre naufrage au large de Sorman où 47 survivants ont été amenés à terre par les gardes-côtes libyens et des pêcheurs. Hier, les corps sans vie repêchés ou rejetés par les eaux étaient alignés sur le rivage, certains portant encore des gilets de sauvetage. Depuis le début de l'année, plus de 11 000 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe ont été renvoyés en Libye au risque de les exposer à la détention, aux abus, au trafic humain et à l'exploitation, a dénoncé l'OIM, appelant à mettre fin à la détention des réfugiés et migrants en Libye.
Le Polisario a annoncé la fin du cessez-le-feu de près de 30 ans dans le Sahara occidental, après une opération militaire du Maroc pour ouvrir une route vers la Mauritanie. Le Maroc a liquidé le cessez-le-feu, a déclaré le chef de la diplomatie de la République sahraoui, autoproclamé Mohamed Salem Ould Salek. Le ministère marocain des Affaires étrangères a dit que cette intervention visait à débloquer le poste frontière de Guerguerat, où 200 routiers sont à l'arrêt depuis 3 semaines. Les États-Unis ont atteint jeudi un nombre record d'infections au coronavirus et d'hospitalisations en une journée. Plus de 150 000 nouveaux cas ont été signalés dans le pays, dépassant les 144 000 cas enregistrés la veille. Le point avec Bagassikoura.
Plus de 67 000 personnes ont été hospitalisées aux États-Unis. C'est une augmentation de plus de 1 700 par rapport à mercredi. 1 104 autres personnes sont mortes. On dénombre plus de 10,5 millions de cas aux États-Unis et plus de 242 400 décès, selon les données de l'université Johns Hopkins. La Californie approche le million de cas après le Texas, qui se rapproche de ce seuil. Aux portes de New York, la ville de Newark incarne la résurgence du coronavirus. Une ville morte, constate Belinda Lewis, copropriétaire d'une salle de sport dans la ville de 280 000 habitants où un couvre-feu est en vigueur depuis jeudi. Les experts s'alarment de la vague de décès à venir, étant donné le nombre inédit de tests positifs, plus de 100 000 par jour, soit une incidence qui se rapproche de celle observée dans l'Union européenne. L'Inde et le Brésil suivent les États-Unis avec respectivement plus de 8,7 millions et 5,7 millions de cas. La France approche les 2 millions de cas, suivie de la Russie avec 1,87 million. Cette seconde vague a contraint des pays comme l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie à rétablir les mesures restrictives pour contenir la propagation.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lindell.
Eddy SA, filiale d'EcoBank, lance Rapid Transfer, un service de paiement digital à destination de la diaspora africaine entre l'Europe et 33 pays africains. En 2018, la diaspora a envoyé sur le continent près de 46 milliards de dollars d'après la Banque mondiale. On estime qu'entre 165 000 et 280 000 membres de la diaspora africaine ayant des revenus supérieurs à 80 000 euros vivent au Royaume-Uni et en France. Au Togo, le projet de loi de finances 2021 est projeté à 1521 milliards de francs CFA contre 1633 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2020, soit une baisse de 7,1%. Selon l'exécutif togolais, cette loi de finances traduit la mise en œuvre intégrale du budget, programme et consacre aux secteurs sociaux un montant de 445 milliards de francs CFA, soit une hausse de 10,8% par rapport au budget 2020. Le G20 devrait s'accorder ce vendredi sur un cadre commun permettant une restructuration de la dette des pays pauvres. Après avoir adopté en avril un moratoire sur le paiement du service de la dette des 6 mois, le G20 a décidé d'aller plus loin en acceptant d'étudier au cas par cas des demandes de rééchelonnement, de réduction, voire d'annulation des dettes. 73 pays seront éligibles à une restructuration, dont 38 en Afrique subsaharienne.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les matchs de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine CAN se poursuivent sur le continent. À suivre ce soir, Mali, Namibie, Niger, Éthiopie, Nigeria, Sierra Leone, Afrique du Sud, Sao Tomé et Principe, Maroc, Centrafrique et Tunisie, Tanzanie. Hier, le Cameroun, pays hôte de la prochaine CAN, a corrigé le Mozambique 4 buts à 1, 1-0 pour l'Ouganda devant le Soudan du Sud, 0-0 entre le Cap-Vert et le Rwanda, 2-0 pour le Congo face à l'Iswatini, 2-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire face à Madagascar, le Ghana a disposé du Soudan 2-0, 2-1 pour la Zambie qui recevait le Botswana, 3-1 pour les Algériens devant les Zimbabwéens, 2-1 pour le Gabon face à la Gambie. Et 3-1 pour le Burkina Faso qui accueillait le Malawi au stade du 4 août de Ouagadougou, sur place dans la capitale burkinabé. Voici le reportage de Kader Traoré.
Les buteurs burkinabés sont Franck Lassina Traoré à la 2e et 25e minute et Brian Dabo à la 90e minute sur penalty. Un match qui n'a pas été facile à gérer sur le plan de l'ambiance à cause du huis clos imposé par la CAF. Cela n'a pas dérangé Edmond Tapsoba, défenseur burkinabé.
C'est vrai qu'on n'a pas joué avec des supporters, mais je peux dire qu'ils nous ont supportés depuis leur maison. Ce qui nous a encouragés, on sait que nos familles nous regardent sur les écrans et on s'est donné à fond. C'est à nous maintenant de jouer, de faire pareil. Ce qu'on a fait ici, le match de tour, je pense que ça c'est ailleurs.
Franck Lassina Traoré, sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam, à 19 ans, ouvre son compteur but avec les étalons. Il se projette déjà sur le match du 16 novembre prochain face à ce même adversaire Malawi.
C'est le match crucial pour la qualification. Je pense qu'on doit laisser ce match derrière nous. On doit jubiler après. Je pense dès demain, on doit être concentré sur le prochain match.
Le Burkina Faso reprend la tête du groupe B avec 7 points et un goal différentiel de plus 3 à égalité parfaite avec l'Ouganda. Le Malawi est troisième avec 3 points. Le Soudan du Sud ferme la marque avec 0 point. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Une candidature de plus à la présidence de la CAF, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a annoncé sa candidature à la présidence de l'Institution africaine du football en mars prochain. J'ai déposé mon dossier de candidature en tenant compte de la date de clôture hier jeudi, a dit M. Senghor, avocat de formation. Augustin Senghor, qui préside la Fédération sénégalaise depuis 2009, est aussi maire de Gouré, neveu de l'ancien président Léopold Sédar Senghor. Il est aussi membre du comité exécutif de la CAF. Cette candidature du Sénégalais s'ajoute à celle du Malgache Ahmad Ahmad, actuel président de la CAF, du Mauritanien Ahmed Yahia, de l'Ivoirien Jacques Anouma et du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, c'est le 12e jour des consultations lancées par le président Félix Tshisekedi pour tenter de résoudre la crise qui plombe la coalition avec le FCC, la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila. Les évêques catholiques mènent une mission de bons offices auprès du FCC et d'autres partis qui refusent de prendre part aux consultations. Eddy Issango a joint Kinshasa le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéré, un cadre du FCC.
Jusque-là, la position du FCC a été effectivement confirmée encore par la retraite qui s'est passée à l'hôtel Safari Beach, où clairement le FCC a pris position qu'à ce qui concerne les dialogues avec les chefs de l'État, le FCC reste ouvert, mais que cela se fasse dans le cadre d'un accord de coalition qui avait été signé entre le FCC et le CACH, simplement. Tel que ça se déroule aujourd'hui au Palais de la Nation, le FCC, respectueux de la Constitution et des lois de la République, sachant comment une coalition pour former un gouvernement, c'est l'affaire des partis politiques qui ont des sièges au Parlement et qu'à ce qui le concerne, il avait déjà scellé un pacte de coalition avant d'aller aux élections, un deuxième pacte avec les CACH après les élections. Donc, il ne voyait pas ce qu'on pouvait rechercher à quoi une autre démarche pour former une autre coalition, c'est pas une autre majorité, à quoi ça pouvait les concerner. Donc, on est resté sur le même point.
L'FCC ne prend pas part à ces consultations, mais les gouverneurs qui sont de votre, ils sont, et on a vu plusieurs personnes de votre camp y défiler. Est-ce que les navires ne prennent-ils pas de l'eau?
Non, pas du tout, parce que là aussi nous sommes en train de nous étonner. Le chef de l'État, dans son discours, il dit qu'il est à la recherche de la création d'une nouvelle majorité au Parlement. On ne peut pas avoir une nouvelle majorité au Parlement avec des gens qui ne sont pas membres du Parlement. Et là, ceux qui sont signataires des coalitions, ce sont des partis politiques et regroupements. Ce ne sont pas des députés pris individuellement. Vous le savez, ou sinon, je dois encore informer l'opinion que la Constitution, l'article 110, interdit un député de quitter délibérément son parti pour aller dans un autre parti. Le règlement intérieur lui-même du Parlement, par lesquels on identifie par la formation des groupes parlementaires, oblige les députés à appartenir au groupe parlementaire de son parti politique et qu'il n'a aucun droit de quitter, d'appartenir à plusieurs groupes parlementaires.
Espérez-vous à un dialogue plus large avec l'initiative des évêques de la CENCO qui rencontre actuellement tous les camps, même ceux de ceux qui ne sont pas présents aux consultations du président Félix Tshisekedi?
Non, je crois que toute mission de bons offices telle qu'on est en train de le voir est à saluer s'il faut ramener les gens à la raison. Nous avons une constitution, nous sommes au milieu de la législature, ce n'est pas au milieu de la législature qu'on change de capitaine de bâton ou de pilote qui est déjà à plein vol. Si les pilotes sont déjà à plein vol, si on veut bien que ce gouvernement de coalition œuvre pour le bien-être de la population, c'est de permettre à ce que l'institution présidente de la République qui en a la responsabilité, c'est de permettre à ce que toutes les institutions fonctionnent harmonieusement bien.
Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD en République démocratique du Congo.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Sénégal en deuil est un hashtag lancé par des internautes pour rendre hommage aux jeunes emportés par la mer en tentant de rejoindre l'Europe. Face au mutisme des autorités qui parlent de quelques dizaines de morts, les activistes et influenceurs qui dénombrent 480 morts ont organisé une journée de deuil national numérique ce vendredi 13 novembre. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Il ne se passe plus une semaine sans que des cas de décès dus à l'immigration clandestine ne soient reportés par les organisations de la société civile ou rapportés par des rescapés. Au fur et à mesure, le bilan est rapidement monté à 480 morts face au mutisme des autorités. La toile sénégalaise s'est organisée pour offrir une journée d'hommage aux victimes. Pabdemba John en est l'initiateur.
J'avais juste fait un tweet où je soulignais que j'étais attristé par la situation des migrants qui ont perdu la vie en mer. Après le feu, le silence radio de l'État aussi m'a beaucoup dérangé et après ça m'a interpellé. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire bouger les choses en essayant de lancer un hashtag qui pourra éventuellement rendre hommage aux victimes de l'immigration clandestine.
Pabdemba lance ainsi un hashtag dénommé « Le Sénégal en deuil ». Il est rapidement partagé des milliers de fois et devient le top des tendances sur la twittosphère sénégalaise. Galvanisé par cet engouement et soutenu par d'autres activistes, Pabdemba concrétise son initiative avec un programme devenu viral sur la toile.
De 8h à minuit, nous allons tous changer nos photos de profil et couverture avec une photo commune et une couverture commune bien sûr. Donc après, pour ceux qui le peuvent, ils peuvent s'habiller en noir durant la journée de l'hommage. Et puis de 8h à 19h45 aussi, nous allons publier des vidéos et des messages d'hommage, mais aussi des témoignages des parents des victimes. Et de 20h à 20h10, nous allons observer une minute de silence numérique. Nous allons tous publier le même message. À part ce message, personne n'a le droit de faire une autre publication.
Touchés et reconnaissants, les familles des victimes et les rescapés voient en cette journée de deuil numérique une manière de rendre hommage aux disparus, mais aussi d'alerter les autorités pour qu'ils se prononcent sur le drame de l'immigration clandestine. Ahmed Fall est un rescapé.
Pour nous qui avons perdu des parents, amis et compagnons de voyage, pour nous qui avons passé plusieurs jours en mer et vu des dizaines de personnes périr sans pouvoir les assister, pour nous rescapés et familles des victimes, cet hommage est important, même s'il se limite à Internet. Nous avons souffert du silence de l'État, donc avoir des Sénégalais penser à rendre hommage aux victimes, ça nous touche énormément et on espère qu'après cette journée, les autorités vont enfin se prononcer et surtout agir.
C'est le maître mot d'après Jules Souleymane Diaye, journaliste au quotidien L'Observateur. Celui qui a été l'un des premiers à relayer l'initiative dans la presse estime que cet engagement des internautes doit continuer et passer du virtuel au réel.
Au-delà de la dénonciation, au-delà de déplorer le mutisme de l'État face à cette vague déferlante, mais il faut aussi la sensibilisation. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, la sensibilisation doit continuer au niveau des quartiers, au niveau des villes, au niveau des marchés, pour on peut essayer de dissuader ces jeunes, pour dire que même ici on peut réussir.
En attendant, les initiateurs de cette journée particulière de Brogne Numérique ont marqué le coup avant de se lancer vers d'autres actions pour alerter, sensibiliser et combattre le fléau de l'immigration clandestine. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Après les élections du 3 novembre, l'équilibre des pouvoirs au Congrès américain dépend de deux sièges encore en jeu au Sénat. Ils sont âprement disputés en Géorgie, où la course à la Maison Blanche est si serrée que les résultats n'ont pas encore été annoncés officiellement. Comme le rapporte Catherine Gibson, correspondante de La Voix de l'Amérique au Congrès, les deux sièges en question vont déterminer s'il y aura cohabitation pendant les deux premières années du président élu Joe Biden. Le récit est de Lionel Gaïma.
Les élections américaines de 2020 sont loin d'être terminées. En Géorgie, deux courses au Sénat n'ont donné aucun vainqueur le 3 novembre, de sorte que les électeurs vont se rendre à nouveau aux urnes pour un second tour en janvier. Les démocrates Raphaël Warnock et John Ossoff tentent de renverser les républicains Kelly Loeffler et David Perdue. John Ossoff, candidat démocrate au Sénat de Géorgie.
Ces sénateurs républicains sortants pensaient avoir droit à une danse facile vers la victoire.
Pour le moment, les républicains ont remporté 50 sièges au prochain Sénat.
Les démocrates ont 46, avec deux indépendants qui votent généralement démocrates. Casey Burgett, de l'Université George Washington.
Les deux élections spéciales en Géorgie signifient que si les démocrates remportent ces deux sièges, ce serait un match nul, 50-50, et notre constitution stipule que le vice-président préside le Sénat.
Dans un tel cas, Kamala Harris, la vice-présidente élue, détiendrait le vote décisif au Sénat, ce qui offrirait un chemin étroit à l'exécution de l'agenda législatif de Joe Biden.
De toute évidence, ce serait beaucoup mieux si nous avions une égalité au Sénat, ce qui signifierait que cette vice-présidente deviendrait incroyablement importante au-delà de ce qu'elle est déjà.
Mais si les républicains remportent les deux sièges en jeu, ou même un, les perspectives de la présidence de Biden vont changer considérablement. Casey Burgett, de l'Université George Washington.
Le fait d'avoir un Sénat américain contrôlé par les républicains, en particulier par Mitch McConnell, mettrait un frein aux ambitions progressistes pour lesquelles il a battu campagne.
La Géorgie a toujours été bastion républicain, mais cela est en train de changer, en partie à cause des efforts de l'organisatrice démocrate Stacey Abrams pour faire sortir les électeurs au jour du scrutin.
La Géorgie a un potentiel depuis des années. Nous avons investi sur une période beaucoup plus courte.
Ossoff et Warnock représentent tous les deux la démographie changeante de cet État du Sud, plus jeune et plus diversifié, alors que Loeffler est perdu, encourage la base fidèle du président Trump. Capri Caffarel de l'Université américaine de Washington.
En raison des implications nationales de la France en Géorgie, les deux partis vont y consacrer et nous constatons déjà une énorme quantité d'argent et d'efforts.
En Géorgie, le vote anticipé pour le second tour commence à la mi-décembre avant le scrutin lui-même, qui aura lieu le 5 janvier 2021 pour les deux sièges décisifs au Sénat américain.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée et à très bientôt.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les forces spéciales américaines ont récemment secouru des citoyens américains pris en otage par des hommes armés au Nigeria, soulignant l'engagement des États-Unis à protéger leurs citoyens dans le monde entier. L'opération a permis de libérer un fermier de 27 ans qui vivait avec sa famille au Niger voisin. Il a été enlevé de sa ferme par des ravisseurs qui réclamaient une rançon à son père. Les États-Unis ont œuvré avec les gouvernements du Nigeria et du Niger pour procéder à sa libération rapide sans perte de vie de militaire. Nous apprécions le soutien de nos partenaires internationaux dans la conduite de cette opération, a dit le principal porte-parole du Pentagone, Jonathan Huffman, dans une déclaration. Les États-Unis continueront de protéger leurs citoyens et leurs intérêts partout dans le monde. S'adressant à la presse, le président Donald Trump a loué les hommes et femmes de l'armée et qui ont mené l'opération avec succès. Je voudrais remercier les forces spéciales. Ce fut un formidable événement, quelque chose qui devrait être fait parce que ces gens s'amusaient avec des citoyens américains. Nous ne pouvons pas le permettre. Le directeur du Centre national du contre-terrorisme, Chris Miller, s'est fait l'écho de ce sentiment sur Twitter, écrivant « C'est un message clair à tous les groupes criminels et liés au terrorisme partout que la portée des États-Unis est infinie et nous ferons tout ce qui est en nos grandes capacités pour ramener nos citoyens au pays ». Les États-Unis sont engagés à assurer le retour sain et sauf des citoyens pris en otage, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration. Grâce à l'extraordinaire courage et aux capacités de notre armée, au soutien de nos professionnels du renseignement et à nos efforts diplomatiques, l'otage sera réuni avec sa famille. Nous n'abandonnerons jamais un Américain pris en otage.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.